a été rejoint par Benoît Cibot de l'April et Thierry Richter de la FUL pour une table ronde sur la vente liée.
Bonjour.
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 Déjà, moi, j'ai une première question. Qu'est-ce que c'est que l'April ? Qu'est-ce que c'est que la FUL ?
Benoît.
Chacun donc, votre tour.
L'April donc, est une association qui existe depuis 1996, dont l'objectif est la promotion et la défense du logiciel libre, qui regroupe un peu plus de 5200 adhérents maintenant, personnes physiques ou personnes morales.
Et la FUL, l'Association francophone des utilisateurs de logiciels libres, est une association qui existe depuis 1998, donc un petit peu plus jeune, et qui vise à faire l'illustration, la promotion, entre autres, des standards ouverts de l'interopérabilité du logiciel libre, et qui a actuellement environ 350 membres.
Donc des associations effectivement de tailles différentes, mais d'actions concertées, a priori collégialement, sur des sujets qui sont les mêmes, et pour des buts qui sont les mêmes. Donc aujourd'hui, on va parler de la vente liée. Première question pour ceux qui ne le sauraient pas encore, qu'est-ce que c'est que la vente liée et qu'est-ce que c'est que ce problème ?
On commence par quoi ? Un historique ?
Bon. Thierry.
Il y a en fait en 1998-99 un mouvement qui est apparu aux États-Unis et qui consistait à dire que le fait de retrouver le système Windows sur les ordinateurs sans qu'il y ait de choix de la part du consommateur était peut-être quelque chose d'un petit peu abusif. Et c'est, ça l'est même certainement tout à fait en France. Parce que quand on regarde la législation sur la manière de vendre les choses de manière très générale, on se rend compte qu'il y a une interdiction qui consiste à vendre un autre produit, un autre service lorsqu'on achète un premier produit. Et que finalement, quand on s'est mis à creuser un petit peu la chose au début des années 2000, notamment par l'intermédiaire d'un éminent universitaire français qui a un petit peu secoué le cocotier, qui s'appelle Roberto Di Cosmo, là, on s'est rendu compte qu'il y avait en effet une situation qui consistait à avoir sur les ordinateurs vendus une vente liée, c'est-à-dire quelque chose qui s'y retrouvait automatiquement, sans qu'on en ait la moindre trace. C'est-à-dire que quand vous achetez un ordinateur ou quand vous en achetiez un, parce que ça évolue un petit peu, on en parlera, il n'y a jamais marqué le prix du logiciel système d'exploitation de Windows quand il s'agit de machines avec Windows ou d'Apple quand il s'agit de machines Apple, et il n'y a jamais non plus le prix de tous les autres logiciels qui sont sur la machine, qui sont, pourrait-on penser, offerts, mais en fait qui ont bien un coût, qui sont bien payés lorsqu'on achète la machine. Et l'idée, c'est que dans la législation, normalement, il devrait y avoir d'une part la séparation des prix avec le détail, et d'autre part le fait qu'il y ait le choix de la part des utilisateurs. Parce que finalement, on va parler du récent Vista sans parler forcément de succès, mais il ne s'est pas vendu de Vista. C'est vendu des ordinateurs avec Vista.
Donc c'était un petit peu, entre guillemets, jusqu'au début des années 2000 où c'est arrivé cette réflexion, et surtout qu'on l'a livré au grand public. Il apparaissait naturel pour l'utilisateur d'un ordinateur d'avoir Windows.
Oui, quasiment. C'était livré avec. Il n'y avait peut-être même pas d'autre solution parce que, oui, on savait qu'il y avait des machines Apple, mais enfin, est-ce que les gens faisaient clairement la différence entre une machine fabriquée avec le logo la pomme sur laquelle il y avait un système d'exploitation ? Encore faut-il savoir ce que c'est qu'un système d'exploitation qui, lui, n'était pas en effet du Windows, mais s'appelait macOS avec un nom particulier. C'était vraiment pas le cas. Donc là, au début des années 2000, il y a eu non seulement un début de réflexion, mais un début d'action avec en effet des associations qui sont retrouvées. Au niveau de la FUL, on avait lancé un groupe de travail. Il y a eu une priorité même financière qui avait été définie au milieu des années 2000 en disant on met de l'argent, notamment pour faire éventuellement des actions en justice. On s'est retrouvé, comme ça a été dit tout à l'heure, sur des projets communs. On se retrouve là avec entre autres l'April et d'autres associations pour dire il faudrait que ce soit appliqué, y compris en allant jusqu'au tribunal. Donc encore récemment, il y a des affaires qui ont été jugées en disant la règle dit, la loi française dit que, or il se trouve qu'il y a finalement violation lorsqu'il n'y a pas de détails ou lorsqu'on n'a pas le choix, ou alors lorsqu'on demande le remboursement, que le remboursement soit fait, puisque normalement c'est ce que devraient faire les constructeurs et qui évidemment, on va dire, ne sont pas forcément très enclins à le faire.
Alors Benoît Cibot, est-ce que tu pourrais nous expliquer suite à ces procès, suite aux nombreuses affaires qui se sont tenues, quels ont été les différents résultats qu'on a pu trouver ?
Alors, il y a donc, comme on le disait tout à l'heure, trois grands points sur le sujet. Il y en a un qui concerne l'optionnalité, le fait d'avoir les choses séparément. Il y en a un qui concerne le fait de l'affichage du prix. Et le dernier qui est aussi intéressant dans ce cadre-là, c'est l'affichage des licences. Puisqu'on met des logiciels avec du matériel, les questions des licences se posent aussi. Donc, dans ce cadre-là, on intervient à plusieurs niveaux. Il y a d'une part les aspects qui relèvent des procès du judiciaire. Il y a la partie qui relève du réglementaire et du respect de la loi directement via la DGCCRF et de discuter avec eux pour essayer de faire changer les choses, de discuter avec le secrétariat d'État à la consommation, dont c'est le rôle aussi de faire respecter la loi, la législation qui existe, car rappelons-le, l'objectif ici, c'est de faire appliquer une loi qui existe déjà, qui est en application, et qu'on demande juste l'application de la loi, ce qui ne paraît pas déraisonnable. Et il y a le dernier point qui est de sensibiliser au niveau politique, de communiquer vers les élus, notamment députés et tous les élus de manière générale, mais tous les politiques plus largement, y compris au niveau donc du gouvernement, leur faire prendre conscience que c'est une législation qui existe, qu'il faudrait la faire appliquer, et qu'on sera vigilant sur ce point-là. D'où l'intérêt d'être actif sur cette thématique.
Alors justement, tu parlais de la DGCCRF.
Qu'est-ce que c'est ? Excusez-moi.
Direction générale à la concurrence et à la répression des fraudes.
Et j'ai l'impression que la DGCCRF, il y a quelques problèmes.
Il y a eu donc un certain nombre de discussions qui ont eu lieu. Il y a eu des rencontres entre, d'un côté, les utilisateurs, les consommateurs, et de l'autre, les constructeurs, dans le cadre de réunions organisées par la DGCCRF. Les discussions ont eu lieu, et de part et d'autre, il y a eu des demandes plus ou moins entendues du côté des constructeurs. La DGCCRF a indiqué qu'elle aimerait bien que les constructeurs s'activent sur le sujet et fassent des propositions. Depuis, on ne peut pas dire que les choses aient réellement avancé. On a notamment au début décembre, relancé un peu tout le monde au gouvernement et à DGCCRF pour leur rappeler qu'on allait arriver à la période des fêtes, qu'il allait y avoir énormément d'achats de numérique et donc d'ordinateurs, et qu'on allait se retrouver de plein pied dans la problématique de la vente liée. Il n'y a pas eu vraiment de retour sur le sujet, et une année de plus, on a eu des fêtes de Noël où on avait une situation de vente liée.
J'aimerais qu'on revienne sur...
Il y a même, en fait, ces jours derniers, un anniversaire qu'on... On va pas dire que nous avons fêté, mais enfin, c'était... on va pas forcément aller jusque-là, mais on va simplement se rappeler qu'il y a une année, au début juillet 2008, il y a eu une réunion à la DGCCRF où on était présents, les associations du logiciel libre, la DGCCRF, les fabricants de matériel et des éditeurs. Pas forcément tous les éditeurs, pas forcément tous les fabricants de matériel, mais une bonne partie. Et il avait été indiqué très officiellement que pour la rentrée de 2008, il y aurait des choses qui avanceraient, il y aurait notamment pour gagner du pouvoir d'achat, les prix qui seraient clairement affichés pour permettre aux gens de choisir en connaissance de cause et d'avoir quelque chose qui irait dans le sens aussi d'une concurrence et d'un affichage clair. Bon, c'était donc en juillet 2008 pour la rentrée de septembre 2008, on est en 2009, ma foi, c'est pas encore véritablement arrivé, et c'est vrai qu'on le regrette fortement, disant que là, comme l'a dit Benoît, c'est quelque chose qui n'est même pas une demande d'une modification de la législation ou d'une mise en place d'une loi. C'est une application de la loi qui existe, qui est claire,
qui est promulguée,
et pour laquelle d'ailleurs on a aussi des jugements qui vont dans ce sens-là, pour dire oui, en effet, le juge statue et dit dans ce cas-là, oui, la loi normalement prévoit le remboursement, donc il doit y avoir remboursement. Et malheureusement, il faut des fois en aller jusqu'à ces extrémités-là pour dire action en justice, parce que il n'y a pas de respect d'une loi qui est parfaitement claire et qui dit la vente liée est interdite.
Alors, parmi ces grandes affaires, vous me coupez si je me trompe, mais il y en a une qui est supranationale, qui s'est passée au niveau européen, avec notamment la Commission européenne, etc. Est-ce que vous pouvez nous rappeler sur quoi c'était, pourquoi on en est arrivé à une condamnation ? je me trompe pas.
On parle d'une grande société.
D'une grande société.
La fondation de Microsoft à propos de la présence il y a quelques temps.
À propos de diverses choses.
Oui, parce qu'il y a eu plusieurs affaires qui ont atterri sur le bureau de la Commission européenne. Est-ce que ça, vous considérez que c'est une victoire en tant que telle ou est-ce que vous avez aussi été partie prenante dans cette bataille ou est-ce que vous avez laissé faire la commissaire à la concurrence? Parce que je pense que c'est elle qui s'en est occupée.
Une victoire, de toute façon, c'est un bien grand mot dans le sens où ça fait plusieurs fois que les autorités de la concurrence interpellent, voire plus, sanctionnent d'amendes conséquentes Microsoft pour des pratiques anticoncurrentielles. Et au final, l'application est tellement lente et l'informatique évolue tellement vite que les sanctions arrivent toujours trop tard. Et que pendant ce temps-là, la situation de quasi-monopole, la situation très confortable de position dominante et les abus qui vont avec se maintiennent et servent, c'est quand même la source principale du financement et de la réussite de Microsoft, c'est la vente liée. Le fait de disposer d'une rente et d'être sûr de pouvoir utiliser un revenu garanti pour aller ensuite se développer sur d'autres marchés avec les bénéfices de ce secteur-là, c'est pas un hasard. À la base, Microsoft, ils ont deux secteurs. Ils avaient initialement deux secteurs rentables, les systèmes et les suites bureautiques, soit les deux secteurs sur lesquels ils font le maximum de ventes liées. Et avec ça, ils ont pu s'étendre sur plein d'autres secteurs, en commençant de manière complètement déficitaire avec des pertes colossales, mais complètement couvertes par les bénéfices colossaux eux aussi engendrés par deux secteurs d'activité.
Il faut bien voir que concernant la décision de l'Europe, ça a été à propos entre autres de Windows Media Player et puis d'Internet Explorer. Maintenant, quand on inflige une amende et qu'on cite le montant dans l'absolu qui est 495 millions d'euros, c'est vrai que pour moi, comme pour certainement tous les auditeurs et toutes les auditrices, ça représente une somme qui est plus que conséquente. On aimerait bien en avoir même une petite partie.
Mais est-ce qu'elle l'est pour l'entreprise ?
Exactement, c'est la question. C'est de manière brute. Maintenant, quand on relativise par rapport aux bénéfices, par rapport aux chiffres d'affaires encore plus, ça représente peut-être une sanction qui n'est pas aussi forte, sans parler de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire la lenteur d'une certaine manière de la mise en place de sanctions où le changement n'est pas aussi rapide que ça. Ce qui fait que, oui, il y a une sanction, ça peut avoir une portée morale en disant il y a une condamnation et une sanction de l'Europe à l'encontre de Microsoft. Maintenant, dans la pratique, le terme de rente, il est véritablement là. C'est une machine se vend quasiment 9,9 fois, la machine se vend avec Windows, sans qu'il y ait eu de concurrence, sans qu'il y ait eu de choix de l'utilisateur. Et ce que je disais tout à l'heure, le Windows Vista qui a été diffusé ne s'est pas vendu. Il a vraiment été imposé aux utilisateurs qui n'auraient peut-être pas fait ce choix-là. Et peut-être ce qu'ils ont fait finalement revenir en arrière parce que les performances et les résultats n'étaient pas aussi bons. Or, ils n'ont pas eu de choix. Il n'y a pas eu de concurrence saine et non faussée, comme on nous le dit, comme c'est écrit, et comme en France, c'est promulgué. Et c'est une particularité quand même au niveau français que d'avoir cette loi très forte.
On ne retrouve pas au niveau européen ?
Pas forcément dans les mêmes termes et pas forcément avec la même portée. La DGCCRF est une structure française et assez typique. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres pays, hein, mais en tout cas, avec la loi contre la vente liée, c'est peut-être quelque chose d'assez atypique et particulier. Et c'est vrai qu'elle est là et qu'elle devrait être respectée.
Suite à ces affaires et suite aussi à cette plus ample information, il y a eu quand même des annonces parce qu'il y a un secteur quand même qui est assez important et assez symbolique, c'est celui des équipements publics, donc du secteur public que peuvent être les institutions publiques ou en tout cas les communes. Notamment, je me souviens des grandes déclarations de l'actuel maire de Paris qui allait équiper ses machines Linux. Est-ce que où on en est avec ça ? Est-ce que il y a eu une prise de conscience aussi, une prise de position et des choses concrètes qui ont avancé là-dedans ?
Alors, il y a des actions plutôt au niveau des villes, c'est plutôt des actions donc, par définition très, très locales. Il n'y a pas d'aussi grosse migration au niveau des villes que les exemples qu'on a pu avoir avec le cas de Munich, par exemple, qui ont fait des grosses annonces. Du côté français, on a plutôt des grosses migrations au niveau des administrations centrales, des ministères. Une grosse annonce côté gendarmerie nationale avec des migrations importantes sur les postes de travail. Des annonces non seulement importantes, mais surtout très symboliques, comme le poste de travail des députés à l'Assemblée nationale, qui sont passés en logiciel libre. Donc il y a un certain nombre de choses qui se passent comme ça. Et parfois, il y a des choses qui vont aussi dans l'autre sens. Des questions sur le référentiel général d'interopérabilité, donc la façon dont les administrations doivent échanger entre elles et aussi vis-à-vis des citoyens et des entreprises, etc. Des choses qui sont pas terribles. On a un document qui, après des années de tergiversation et de polémiques, ne satisfait personne et ressemble un petit peu à un brouillon. Il y a eu énormément de lobbying dessus et clairement de la part de Microsoft. Donc on a un document de mauvaise qualité dans le même genre d'idée et lié d'ailleurs à ce référentiel général d'interopérabilité. Il y a eu des polémiques des choses pas très propres qui se sont déroulées en normalisation aussi bien au niveau de l'ISO que de l'AFNOR pour la partie française sur les formats bureautiques. Il y a un certain nombre de sociétés qui veulent maintenir leur position en veillant à ne pas respecter ni l'interopérabilité, ni les formats, ni les normes, pour maintenir leur situation. On comprend bien que quand on est d'une part dans une situation de vente liée, que chaque fois qu'on va vendre un ordinateur, on va placer son système, qu'avec son système, on mettra son lecteur multimédia, qu'avec son système, on mettra son navigateur, qui supporte une sous-partie du web et qui ne veut pas respecter les standards, qui va obliger à utiliser d'autres logiciels en cascade du même éditeur. Qu'on a son propre logiciel de courrier qui vient, qui a un format préférentiel pour discuter avec son propre serveur de courrier. Qu'on va placer tous ces logiciels en cascade comme ça, on a un marché avec des clients captifs et que c'est une situation particulièrement confortable. Donc à un moment, c'est aussi aux autorités réglementaires et judiciaires de prendre leurs responsabilités. C'est aussi des choix politiques. C'est pour ça qu'on intervient sur ces divers créneaux. C'est pas un hasard si on communique régulièrement sur le sujet de la vente liée. C'est pas un hasard si on va au devant des candidats aux élections dans le cadre par exemple, de la campagne candidat.fr, qu'on les sensibilise sur les divers sujets dont la vente liée et qu'on leur dit on aimerait bien que vous veilliez à l'application de la loi, que vous veilliez à ce qu'il y ait de l'interopérabilité des formats ouverts, qu'on ait une égalité des citoyens dans l'accès aux administrations, etc. Qu'il y ait des choses qui avancent là-dessus. Donc on est toujours dans une situation où il y a parfois des points très positifs, des migrations annoncées, des choses qui sont très positives, et parfois des décisions, ou plutôt des non-décisions, du laisser-faire, où on laisse faire un non-respect de la loi et on laisse empirer la situation, donc des points négatifs. Toujours ces deux aspects, c'est jamais tout blanc, jamais tout noir.
Au final, c'est...
Oui, vas-y. Oui, je voudrais rajouter et donner une précision qui permet de montrer quand même qu'il y a des disparités. Malgré la loi, il y a la loi qui n'est pas appliquée, c'est ce qu'on a dit. C'est un petit peu faux, parce qu'elle est appliquée quand il s'agit de grands comptes et que ces grands comptes font un petit peu peser sur les fournisseurs leur poids qui consiste à commander évidemment des dizaines voire des centaines et peut-être des milliers de machines et où là l'interlocuteur qui est le fabricant qui va amener des palettes entières d'ordinateurs quand il entend de la part de la structure publique de l'organisme public de l'administration parce qu'il y en a qui s'équipent de manière très importante en renouvelant des parcs donc à des hauteurs très importantes et bien là quand ils indiquent que ce seront des machine sans système d'exploitation, c'est respecté. Et que finalement, même si au début, il y a un petit peu de... Ça rechigne peut-être un petit peu, mais au final, on a des cas très concrets, avec des achats certes massifs, mais où la vente liée qui est mise en avant en disant non, on a le choix et on veut des machines nues, c'est notre choix technique, eh bien finalement, les fabricants vendent des machines qui se trouvent dans ces situations-là. Donc on a là aussi une inégalité entre le consommateur, comme vous et moi, qui achetait une machine, certes une seule, mais pour laquelle la loi de, pour lequel pardon, la loi devrait s'appliquer, au même titre que le gros qui, c'est vrai, va commander 800 machines d'un coup, mais qui, lui, du fait de son poids, peut dire moi je veux pas, et vous savez que sinon vous perdrez le marché. Donc là, il y a aussi une inégalité absolument anormale et qui devrait, de la part des politiques, être prise en compte, surtout en ces temps où on parle de restrictions, de suivi plus fin des dépenses, que ce soit pour les administrations, que ce soit pour les structures publiques, que pour les particuliers.
J'ai l'impression, une fois de plus, que c'est toujours le petit utilisateur final, comme tu le disais, qui est le dindon de la farce et qui n'a que ses yeux pour pleurer. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Il y a plusieurs réponses pratiques, hein, si je peux en donner au moins deux. La première, c'est peut-être d'avoir conscience, ce qu'a très bien décrit Benoît tout à l'heure, de en fait la cascade de choses, l'un entraîne l'autre, qui entraîne un troisième, etc. On peut appeler vraiment ça un effet domino. Il y a un élément qui en pousse tout plein d'autres, et qui fait qu'on se retrouve dans un univers fermé, verrouillé. Et la question des formats, là, elle est essentielle, elle est centrale, elle est cruciale. On peut utiliser tous les synonymes, mais c'est vraiment le cas. C'est vos données qui sont peut-être dans des formats qui ne sont pas connus. Donc vos données sont dans leur format et on en dépend complètement. Et l'autre chose, c'est de manière tout aussi concrète, on a des utilisateurs ou même des clients au départ, qui des clients des grandes enseignes, qui ont décidé, en ayant quand même une petite dose de courage, parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, de se dire « je vais demander à ce que la loi soit respectée ». Il se trouve que il y a un document qui a été mis en ligne, qui est un petit guide qui explique comment, concrètement, faire la demande pour se faire rembourser, comme le prévoit la licence. Vous savez, c'est le « j'accepte » qu'on ne lit jamais en détail lorsqu'on allume pour la première fois son ordinateur, et il y a quelque chose qui apparaît et qui vous détaille dans un jargon incompréhensible ce que vous avez le droit et pas de faire. Bon, et là-dedans, il y a entre autres le fait que si vous acceptez, bah, ça y est, vous êtes avec le système d'exploitation que vous avez acheté sans forcément savoir que vous l'avez payé. Eh bien, il y a un guide qui a été publié sur un site qui s'appelle racketiciel.info. Le nom n'est pas choisi au hasard, racketiciel, et qui permet de détailler et qui a donné lieu de la part de plusieurs personnes à une procédure entamée en suivant les indications qui sont issues de l'expérience qui a été acquise par les personnes impliquées dans ce dossier des taxes, le dossier de vente liée, pour aboutir des fois à ce que, au final, assez rapidement, le fabricant rembourse une somme très variable. Ça peut aller quand même des fois jusqu'à 100 euros. C'est pas une petite somme. Et l'autre possibilité, c'est de se retrouver devant le tribunal avec des actions en justice, avec les pièces qui peuvent être fournies et qui donnent lieu à, des fois, quand même, le respect de la loi, avec le juge qui dit, en effet, il y avait vente liée et c'est tout à fait anormal. Donc là, il y a des informations, racketiciel.org .info est à disposition.
On discute donc de cette problématique de vente liée. Hein, on ne va pas répéter un petit peu ce que c'est, puisqu'on en a déjà pas mal discuté. Moi, j'avais tout simplement une question à vous poser. On vient de discuter effectivement d'une prise de conscience politique, une prise de conscience aussi des utilisateurs et les constructeurs dans tout ça. C'est-à-dire que ceux qui se mettent d'accord à la base avec Microsoft pour vendre leur matériel, qu'en est-il ? Est-ce que eux aussi sont en train de changer de position ?
Est-ce qu'ils commencent à refuser les pressions qui leur sont faites ?
Est-ce qu'il y avait pression ?
Est-ce qu'il y avait pression ?
Déjà, est-ce que...
Alors, c'est pas facile d'avoir des réponses sur le sujet, parce qu'ils dépendent tous d'un seul fournisseur et qui, on l'a assez dit, est en une position dominante, en position de force. Ils ont tous besoin d'avoir un maximum de remises lorsqu'ils font des achats, en gros. Et ils ont tous des contrats qui ne sont jamais rendus publics, qui précisent quelles sont les conditions dans lesquelles les tarifs, notamment, dans lesquels ils obtiennent leur prix de gros. Et éventuellement, comment est-ce qu'on peut donc savoir s'ils n'ont pas des exclusivités, s'il n'y a pas une exclusivité qui est exigée sur les types de logiciels qui sont mis sur les matériels. Donc, puisqu'on n'a pas accès à cette information-là, en tout cas jamais de manière sûre et publiable, c'est difficile de savoir à quel point il y a pression sur les constructeurs. Et puis les constructeurs, ils voient aussi leur propre intérêt à se dire autant être bien avec le leader, autant simplifier ma procédure. Et puis il faut aussi voir que la problématique de la vente liée n'existe pas dans tous les pays. Il y a un certain nombre de pays qui ont une législation sur la vente liée qui n'est pas présente dans tous les pays. Et donc ça peut être des problématiques sur lesquelles ils ne sont pas forcément tous très, très sensibles sur le sujet. Ceci étant, il y a après aussi des questions de positionnement commercial, du lobbying d'un peu tout le monde, des choses aussi qui tiennent plus de la stratégie fiscale et des problématiques d'évasion fiscale. Comment est-ce qu'on fait pour réussir une stratégie d'évasion fiscale ? On n'a pas le droit c'est interdit de vendre à perte. Alors c'est très simple, on produit dans un pays. Et on vend, puisque c'est interdit de vendre à perte en France, on va vendre ailleurs, on va vendre à une de ses filiales à perte, et la filiale, elle peut revendre à son tarif. Donc il suffit de passer par d'autres pays, par un intermédiaire, la maison mère qui revend sa filiale, de jouer sur ces tarifs-là et de passer par un pays qui a un statut fiscal avantageux. Disons par exemple en Europe, l'Irlande. L'Irlande est un bon pays pour faire ça. Et on peut, la stratégie elle est à ce niveau-là de à quel tarif on s'auto-facture en interne un logiciel par exemple.
Il y a même une jolie histoire à raconter pour illustrer le choix avant d'un logiciel libre et de revenir après en arrière. Cette histoire, c'est les ordinateurs tout petits qui sont apparus fin de l'année 2007, début de l'année 2008 en France, qui étaient les petits ordinateurs d'Asus qui, en lançant sa nouvelle machine, donc ça le format à peu près d'une feuille A5, ça faisait 1 kg, et l'idée c'était de proposer une petite machine pratique, pas trop lourde, qui rentrait même dans le sac à main d'une femme, et qui pourrait se connecter à Internet, avoir de la bureautique, et puis un peu de courrier électronique également, enfin un outil pour faire ça. Bref, quelque chose d'assez classique et qui représente une utilisation très très courante. Donc là, Asus se dit, bon, je veux sortir ma machine, qu'est-ce que je vais mettre dessus ? Alors, ce que je vais dire, c'est pas avec des informations sûres au sens où j'ai des écrits, on a des documents internes d'Asus. C'est pas le cas. Mais enfin, les suppositions là sont, à mon avis, pas du tout tirées par les cheveux. Donc, ils se disent, on va sortir cette machine. Qu'est-ce qu'on met dessus ? Bon, comme le créneau est complètement nouveau, ils savent pas du tout si ça va marcher. Maintenant, c'est évident, on en voit tout plein de ces petites machines. Alors, ils décident de prendre du logiciel libre. Et à mon avis, c'est un choix juste. Notamment pour une raison, c'est qu'ils ne sont pas du tout dépendants d'un seul fournisseur. Donc là, en plus de ça, ils adaptent le logiciel à leur matériel et ils sortent donc fin 2007 et courant 2008, courant janvier, la petite machine qui, quand on regardait en détail, se retrouvait avec énormément de logiciels libres. Le système d'exploitation était basé sur du Linux, la suite bureautique, c'est la suite bureautique libre openoffice.org, le navigateur web, c'est Firefox, logiciel de messagerie instantanée, c'en est un logiciel libre. Pour écouter sa musique, c'est un logiciel libre également. Bref, on a toute une série de logiciels libres qui sont utilisés, qui sont installés et qui sont vraiment vendus sur une machine avec un industriel qui fait ce choix-là. Bien. La machine connaît un succès à son niveau incroyable. C'est-à-dire que ça se vend dans le monde et de manière vraiment importante. Au point que tous les autres fabricants décident de se lancer aussi dans le créneau. Et de dire, non mais là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et là où il se passe quelque chose à signaler, c'est que début 2008, donc ça commence à vraiment prendre, et on a au mois de mars-avril, Microsoft qui annonce que son système d'exploitation Windows XP qui était le seul à pouvoir tourner sur les petites machines en question qui commençaient à faire tout plein de petits, parce que d'autres fabricants voulaient aussi se lancer, eh bien Windows XP était exceptionnellement prolongé de vie, parce qu'au lieu d'être arrêté au mois de juin suivant, c'est-à-dire juin 2008, Microsoft dit « Windows XP est très bien pour ces petits ordinateurs, et pour ces petits ordinateurs, eh bien, on va proposer aux fabricants d'avoir aussi du Windows dessus, parce qu'il n'y a pas de raison, l'écosystème est le même, ils nous connaissent, bref, il faut aussi que ça continue. » Parce que je pense que vraiment, dans les coulisses, ils se sont rendus compte, Microsoft, qu'il y a un marché qui était en train d'apparaître, qui allait dépasser les quelques dizaines de milliers de machines, mais ça allait se chiffrer en millions, et qui tenait là aussi à être présent. Et quand en plus, le fabricant de ces petits ordinateurs, en l'occurrence la Asus, est également un fabricant de gros ordinateurs, donc des portables, c'est peut-être plus facile de rentrer en discussion avec lui pour que au mois d'avril-mai, Asus annonce que désormais il y aura aussi des machines avec Windows XP et que petit à petit, depuis presque un an, on a de moins en moins de la part d'Asus ou des autres fabricants qui se sont lancés sur le créneau des ordinateurs avec autre chose que du Windows XP qui, si ça se trouve, a même été plutôt délibérément diffusé sans coût trop élevé, parce qu'il faut bien voir que de toute façon il était certainement amorti depuis longtemps. Mais là, c'était l'idée que ce marché ne pouvait pas, puisqu'il devenait important, échapper non plus à Microsoft qui se lance dessus. Alors, c'est pas de la science-fiction, c'est pas avec des détails suffisamment précis, mais je pense que les grandes lignes ne seront pas trop fausses.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi les distributeurs qui ont joué un rôle pour le glissement de ce marché qui était mixte avant entre certaines machines qui étaient disponibles et sous Linux et sous Windows vers une offre quasiment monopolistique comme on la connaît depuis trop longtemps avec des machines que Windows. Est-ce que ça répondait pas justement à une demande des utilisateurs qui, dû au fait qu'il y a la résistance au changement, se disaient ouais, mais ma machine elle est bien, Linux c'est pas mal. Mais tout change. Moi, je veux un Windows et du coup, voilà.
Enfin, l'expérience a montré qu'il y a eu un démarrage fulgurant sur le.
Tout à fait.
Sur ces petites machines sur lesquelles à base de systèmes libres avec des logiciels libres. Et il n'y aurait pas eu un tel démarrage si les gens avaient dit je comprends pas, c'est pas bien, ça me satisfait pas, etc. Il y aurait eu, c'est-à-dire qu'au bout de 2 mois, ils auraient arrêté, ils auraient dit on arrête la production ou on aurait fait un changement en catastrophe. Ça a quand même duré pendant des mois. Les chiffres ont continué d'augmenter. Donc on voit qu'il y a eu un effet de bouche à oreille, on a vu tous les médias en parler, toute la presse informatique s'extasie en disant que c'était l'avenir et qu'on verrait bientôt plus que ça, etc. Un buzz énorme sur le sujet. Et voilà. Et à un moment, on revient en arrière. Effectivement, on peut se dire que le scénario que décrivait Thierry est probablement assez proche de la réalité.
Alors à côté de ça, pour faire un peu de positif dans tout ça, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a des brèches qui s'ouvrent de plus en plus dans ce monopole et dans cette omerta Windows. J'ai entendu parler moi du constructeur Nokia avec des petites tablettes qui a fait appel au libre pour créer un OS au lieu de le créer lui-même. Il promettait d'offrir des Nokia à tous les gens qui participaient au projet. Il y a aussi depuis ces jours-ci l'entreprise Google qui vient de créer eux-mêmes un espèce d'OS, un espèce de truc qui va gérer, et les constructeurs répondent. Est-ce que ça, c'est pas, et tout ça en open source, est-ce que c'est pas aussi ça des espèces de fissures dans cette espèce de monopole quand même gigantesque de Windows?
Alors, jusque-là, on parlait du PC classique, du PC pour l'utilisateur final, etc., que ce soit un PC fixe, un portable, un mini-PC. Et effectivement, là, sur ce type de matériel, on a fortement une problématique de vente liée. Mais il faut bien voir que dans tout le reste du secteur, dans tout du secteur du numérique en général, on va trouver du logiciel libre partout ailleurs. Du logiciel libre, vous en avez de plus en plus maintenant sur des téléphones dans l'embarqué. Vous en avez dans toutes les boxes de tous les fournisseurs d'accès. Il y a du logiciel libre embarqué. On n'a pas d'Internet sans logiciel libre. L'infrastructure d'Internet repose sur du logiciel libre. On trouve du logiciel libre maintenant à bord des voitures. On en trouve embarqué dans des satellites. On en trouve de plus en plus partout. La plupart du temps, ça ne se voit pas. Les gens ne sont pas au courant que ça fonctionne avec du logiciel libre. C'est des choix d'industriels qui voient les intérêts, les avantages du logiciel libre pour telle ou telle raison. Ce qui bloque justement le seul secteur sur lequel il y a le plus de difficultés, c'est sur le poste client. Pourquoi? C'est justement à cause de la vente liée. Dans la catégorie des serveurs, le logiciel libre tient toute sa place et il est fortement présent. Le point de blocage et le seul secteur dans lequel c'est différent, c'est le secteur du poste client. Et la raison est très simple, c'est la vente liée.
Et pour donner un autre exemple, quand on utilise Internet, on utilise à chaque fois énormément de logiciels libres sans s'en rendre compte, y compris quand on envoie du courrier électronique, hein, simplement en utilisant cette possibilité-là. Ou aussi, lorsqu'on achète, pour soi ou qu'on offre, un cadre photo numérique. On se rend compte sans forcément le voir tout de suite, ou ça nécessite un peu de creuser, de se renseigner, mais il y a de nombreux cadres photo numériques, et encore plus dans le moyen de gamme et le haut de gamme, qui utilisent du logiciel libre pour faire, vous savez, les fameux défilements des photos, avec des transitions, avec différentes choses qui sont un petit peu élaborées. Et bien, dedans, il y a du logiciel libre embarqué qui permet de faire tourner ça. C'est vrai que faut aussi être positif et pas voir que le verre à moitié vide. On peut dire qu'il est à moitié plein aussi, et c'est une bonne chose. Et qu'il y a, oui, des brèches qui sont là, et il y a aussi du logiciel libre qui est utilisé sans du tout qu'on s'en rende compte, et qui est fondamental pour que, Benoît l'a dit, Internet tourne. Il ne tournerait pas. Et c'est certainement un des meilleurs exemples d'une approche réussie qui a permis un développement tel qu'il est, que d'avoir eu du logiciel libre présent sur Internet et qui a permis aussi au logiciel libre de se développer. C'est assez, il y a une sorte de boucle là. Quant à l'avenir, c'est de se dire à propos de la vente liée que, au moins pour la France, elle soit véritablement, je ne veux pas dire combattue, parce que ça voudrait dire que il y a rien pour. On a tout ce qu'il faut juridiquement pour qu'elle soit tout simplement, cette vente liée, interdite. Et là, d'avoir des résultats très concrets et qui sont véritablement en effet politiques, avec là des choix à prendre de la part des décideurs, comme on dit, pour qu'on fasse appliquer la loi qui ne l'est pas.
En tant qu'association de défense du logiciel libre, on discute beaucoup aussi donc de l'utilisateur, hein, in fine. Est-ce que des associations de consommateurs vous rejoignent, je sais pas moi, l'UFC Que Choisir, des gens comme ça, qui ont l'habitude aussi de travailler avec la répression des fraudes?
Dans les discussions avec la DGCCRF étaient présentes des associations de consommateurs.
Et quelle position?
Parmi les utilisateurs présents, les consommateurs présents, il y avait des associations de consommateurs, des associations du logiciel libre. Et ils étaient ensemble sur cette thématique-là. Ce qui est assez normal, puisque c'est, nous, on intervenait sur les aspects, effectivement, de licence, de prix, la problématique de la vente liée. Mais il y a aussi simplement la simple question économique qui intéresse les associations de consommateurs. On est dans une situation de crise économique. Et justement, là, les gens surpayent, payent des choses qu'ils ne voulaient pas forcément, sans le savoir. Et sans respect de la loi, évidemment que ça interpelle les associations de consommateurs.
Et dans tout ça, avec l'avalanche marketing que pratique Windows, parce que c'est aussi un principe, on en est où dans... Moi, j'ai l'impression qu'aussi, on a habitué les gens à Windows, forcément, et que ça commence aussi parfois à l'école. Est-ce que les écoles sont en train aussi de se poser la question? L'éducation nationale est en train de se poser la question sur des alternatives très concrètes, donc de migration, de poste, ou est-ce qu'on continue sur le format Windows pour habituer les chèvres dans le pré,
ou est-ce
si
que
je peux parler comme ça?
Ou est-ce que c'est pas géré uniquement au niveau de l'éducation nationale, mais au niveau des régions?
Alors, ce qu'il faut bien voir à propos de l'éducation nationale, c'est y a deux choses. Il y a le pilotage et il y a le ministère qui donne un certain nombre d'informations, de directives, de programmes. Concernant l'informatique, il y a une chose qui est vraiment essentielle à avoir à l'esprit, c'est que d'un côté, il y a des textes qui disent, par exemple, il faut que le B2I soit mis en place. Il faut que le C2I soit mis en place. B2I, c'est brevet informatique et Internet. C2I, c'est certificat informatique et Internet. Et ce sont des compétences qui sont reconnues comme étant celles des élèves à l'école, au collège, au lycée et après dans le supérieur. Maintenant, ça c'est par exemple le texte qui cadre ça. Concrètement, quand il s'agit d'avoir des machines, des ordinateurs dans les écoles, les collèges ou les lycées, là je vais pas dire que ça se complique, mais il faut voir que le payeur, qui est souvent quand même celui qui décide, eh bien, ce n'est plus l'éducation nationale. Et que le payeur pour les écoles et tout le matériel des écoles, alors c'est le tableau comme l'ordinateur, c'est la mairie. Pour le collège, le payeur, c'est le conseil général, c'est le département. Et pour le lycée, c'est la région. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est d'un point de vue très concret, il faudrait qu'au niveau municipal, départemental ou régional, les responsables économiques, les élus, prennent conscience de l'importance du choix qu'ils vont faire de telle ou de telle machine avec tel ou tel logiciel et d'avoir là une position à la fois informée et aussi claire pour dire on privilégie plutôt ce type d'approche plutôt que telle autre et on peut le faire parce que nous sommes les payeurs et que pour parler concrètement B2I, C2I, on a la possibilité de valider les compétences des élèves quand on parle de traitement de texte, comme c'est normalement le cas dans le texte officiel, pas forcément peut-être dans ce qui est dit dans les écoles, les collèges ou les lycées, mais quand on parle de traitement de texte, ben on a des traitements de texte dans le monde du logiciel libre pour dire ben voilà le traitement de texte sur lequel vous allez apprendre le traitement de texte, vous allez apprendre le gras, l'italique, le souligné, vous allez apprendre le principe des paragraphes, vous allez apprendre le principe de la mise en forme. Je n'ai pas prononcé un seul nom de logiciel là, je parle du traitement de texte, ce sont des compétences. Et il faut former les élèves aux compétences, pas forcément à l'utilisation automatique d'un logiciel et d'un seul. Et heureusement qu'il n'y a pas un logiciel et un seul. Et donc là, de dire, eh bien, le logiciel libre aussi permet d'apporter aux élèves, eh bien, les outils nécessaires pour qu'ils travaillent dans le monde du numérique et avec, là, les interlocuteurs payeurs qui sont école, ville et puis collège département et lycée région, avec, de la part des élus, là, une prise de conscience qui doit se faire et qui se fait hein, dans certains endroits. On a des exemples de structures publiques qui ont choisi délibérément du logiciel libre sur leurs ordinateurs pour leurs écoles, leurs collèges ou leurs lycées. Mais du coup, c'est de dire, c'est pas forcément le ministère, et c'est même pas du tout le ministère qui paye les ordinateurs. Et ça, à mon avis, c'est vraiment important.
Alors moi, j'ai une question un peu triviale à vous poser. C'est bien gentil de faire migrer toutes les machines de la gendarmerie sous Linux. Moi, j'ai l'impression que les gendarmes, c'est pas du tout des experts en informatique. Ce qu'on entend aussi, et vous allez pouvoir répondre, hein, je fais un peu de provoque, on a l'impression que Linux est bien plus compliqué que Windows. Comment est-ce qu'on forme autant de personnes qui vont devoir se servir d'un Linux quand on parle par exemple de la gendarmerie ?
Exactement comme on les forme pour utiliser n'importe quel autre système ou n'importe quel autre logiciel. En quoi ça serait différent d'utiliser un logiciel plutôt qu'un autre ? Par contre, quand on est dans le domaine de l'éducation nationale, il y a une neutralité commerciale de l'école à respecter. On a eu plusieurs fois, au niveau de l'April, à faire des rappels à l'ordre sur le sujet, parce que il y a eu des campagnes ministérielles qui étaient financées par des partenaires privés, par des grands acteurs comme Microsoft ou Google, qui imposaient leur logo partout sur la communication officielle et qui surtout imposaient leur logiciel dans toutes les captures d'écran, qui donnaient des exemples uniquement avec leur logiciel et autres. Et là, il y a un souci du point de vue de la neutralité scolaire. Les aspects commerciaux n'ont pas à apparaître ni dans la communication du ministère ou autre, ni dans les communications, ni dans les documents type B2I, C2I. On n'est pas censé trouver ce genre de choses. Donc il y a à la fois la question du côté ministère, puis on a aussi effectivement au niveau des collectivités locales des choses qui se font, parfois des choses positives, parfois des choses qui sont plutôt problématiques. Quand un conseil général décide d'avoir des portables entièrement équipés de Microsoft Windows, c'est un choix qui, à mon avis, est problématique. On se demande si c'est vraiment une bonne utilisation de l'argent public. Par contre, après, on va avoir la région Île-de-France qui va distribuer des clés USB avec du logiciel libre dans les lycées pour que les élèves soient en situation de légalité et qu'ils puissent utiliser le logiciel aussi bien à l'école que chez eux. On va avoir, comme le guide que j'ai ici, le Conseil général des Landes qui diffuse à 10 000 exemplaires un petit guide sur, intitulé « Sur la route des logiciels libres » qui explique un certain nombre de logiciels libres. On va trouver des actions à divers niveaux, des choix d'équipement, quelle est la dotation pour une école, un collège, un lycée, des choix qui sont à faire à ce niveau-là. Et donc, il y a toujours la même problématique. Hein. Parfois, on trouve des actions positives, parfois des actions négatives. Je dirais quand même que de manière générale, en ce qui concerne l'éducation, on a plus de mal du côté du ministère et on a plus de facilité du côté de la base et des enseignants avec beaucoup plus de bonne volonté côté des logiciels libres, des formats ouverts, de l'interopérabilité.
Il faut bien voir que d'une certaine manière, quand on creuse la question, et il y en a qui l'ont dit beaucoup mieux que moi, l'approche du logiciel libre, avec quand même, avec un sens noble, le partage de la connaissance, la diffusion de l'information, l'enrichissement, la connaissance diffusée, c'est quand même quelque chose qui est, je pense, assez souvent partagé et vécu par les enseignants, que ce soit du primaire, du secondaire ou du supérieur, et qu'il y a une proximité là d'approche qui devrait faire que l'un se retrouve assez souvent, le logiciel libre se retrouve assez souvent chez les enseignants. Maintenant, la barrière qui consisterait à dire, j'ai bien dit qu'il consisterait à dire, voilà, c'est beaucoup moins beau, ça marche beaucoup moins bien.
C'est toute la communication de Windows là-dessus.
On m'a dit que j'ai mon cousin qui l'a installé il y a 8 ans, et puis ma voisine, ça n'a pas marché. Et puis bon, alors là, je dirais que c'est ce qu'on appelle de la désinformation, c'est ce qu'on appelle là de la campagne marketing qui vise justement à faire circuler toute une série d'informations plus ou moins fondées, d'ailleurs plutôt moins que plus, pour dire que oui, c'est compliqué, ça marche pas bien, ce serait comme ça, sans forcément le vérifier. L'exemple type dans le fait que ça peut et ça a marché, c'est quand même alors grosso modo, c'est 2 millions de machines, il me semble, qui ont dû être vendues à travers le monde par Asus au début avec son premier modèle entièrement avec du logiciel libre, ou en tout cas avec quasiment que du logiciel libre. Et donc un système Linux dessus, il n'y a pas eu de retour à 98% des utilisateurs qui ont dit on comprend rien. Il y a eu des utilisateurs et des utilisatrices, j'en ai eu dans mon entourage, qui sont passés à une machine comme celle-là à l'époque. Bah oui, ils ont retrouvé des icônes, ils ont retrouvé des boutons, des clics, des choses qui sont assez classiques.
Et des programmes qu'ils avaient aussi sur leur poste de travail parce que ils avaient été installés auparavant, je pense à du Firefox, à du VLC, qui sont quand même maintenant très très répandus, y compris sur les utilisateurs d'OS propriétaires. Et pour autant, les gens ne savent pas forcément qu'il s'agit de logiciels libres.
J'ai pas trop de doute sur le fait qu'il y a largement plus de postes standards sur lesquels qui ont été achetés avec en vente liée avec un Windows dessus qui a été remplacé par un système libre qu'il n'y a eu de mini portables d'Asus sur lesquels des utilisateurs non satisfaits auraient réinstallé eux-mêmes à la main un Windows dessus.
Mais alors, juste pour me faire l'avocat du diable, est-ce que dans le cas de cette petite machine vendue par Asus avec GNU Linux, on peut pas parler de vente liée ?
Dans l'absolu, si. Et dans ce qui est avancé par les associations comme solution possible à... c'est la solution au problème de la vente liée et l'application de la loi. C'est de dire, il y a tout à fait techniquement la possibilité, sur la machine que l'on vient d'acheter, d'avoir le choix, l'optionnalité, le choix de ce qu'on va retenir, y compris une distribution en logiciel libre plutôt que du Windows, et avec là une activation. Techniquement, il n'y a absolument pas d'impossibilité pour que la machine soit livrée quasiment nue et avec un choix de l'utilisateur en fonction de ce qu'il a réglé et de ce qu'il a choisi, et choisi en connaissance de cause, et non pas forcément avec uniquement le matraquage publicitaire et une non-information ou une désinformation, parce qu'il y a des outils suffisamment puissants et des moyens suffisamment importants.
Pour conclure, une dernière réflexion, vous n'êtes pas fatigué ?
Non, bien au contraire, on vient de le dire, c'est même c'est un problème qui a une solution technique qui est relativement simple. On dit autrement, très clairement, c'est juste une volonté politique et un choix de ne pas faire appliquer la loi.
Mais justement, là, vu que la volonté politique traîne un peu...
Même au niveau des associations de consommateurs et de la DGCCRF, il n'y a pas de consensus à l'intérieur même de ces organismes.
Là-dessus, c'est là-dessus.
Ouais, sur cette question.
Les choses avancent. Quand on voit que sur les questions de, notamment de Vently, on a sensibilisé, qu'on arrive à avoir, il y a quand même 74 députés actuels en France qui sont signataires du pacte du logiciel libre et qui ont pris un certain nombre d'engagements, et notamment sur la question de la Vently. C'est non négligeable parmi 577 députés. Qu'au niveau européen, maintenant, on a plus d'une trentaine de députés signataires de tous partis et dans divers pays. Il y a des choses qui avancent. Il y a un certain nombre d'actions juridiques qui sont en cours aussi. Il y a, voilà, les choses avancent de part et d'autre. Et au contraire, on est plutôt de plus en plus fort sur cette thématique-là, avec de plus en plus de gens impliqués, de plus en plus de bruit fait autour de cette histoire. Et de plus en plus aussi, même si nous ne vont pas aussi vite et aussi loin qu'on pourrait le souhaiter, d'actions des autorités de la concurrence qui sont en cours. Donc non, les choses avancent. Un point sur lequel on devrait être déçu, c'est plutôt sur le fait que ça n'avance pas assez vite, mais en tout cas, les choses progressent.
Et là, clairement, le tout nouveau et tout récent document qu'a cité Benoît, qui s'appelle « Sur la route des logiciels libres » et qui est donc édité par le Conseil général des Landes et avec l'association Landinux, politiquement, s'il faut parler très, très clairement, c'est quelque chose qui est très fort, parce qu'on a un document qui non seulement a le logo du Conseil général, mais qui s'ouvre sur sa page 3, je l'ai sous les yeux, avec une préface, où le président du Conseil général des Landes, Henri Emmanuelli, écrit un texte qui est plutôt favorable au logiciel libre en disant que c'est quelque chose de tout à fait intéressant et qui finit par « Je vous recommande donc cette excellente lecture qui peut également servir de memento ». Bon,
on ne peut pas être plus clair. Oui.
C'est quelque chose qui est très fort et quand on a des actions, des choix politiques de ce type, oui, on peut que les encourager de quelque côté que ce soit. Donc s'il y a d'autres conseils généraux ou conseils régionaux qui ont envie d'imiter cette démarche, on pourra qu'applaudir. Et si par moment on peut être un peu découragé par les rouleaux compresseurs qu'on a en face de nous et les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est vrai, parce que c'est pas évident avec les moyens que l'on a. On peut être aussi plutôt positif en se disant que depuis 13 ans ou depuis 11 ans, investi dans le logiciel libre, ça avance quand même et qu'on a changé d'air entre 98, 2000 et maintenant de manière très évidente. Ça, c'est sûr. Et les rencontres mondiales des logiciels libres en sont une preuve. Hein.
C'est même un très bel exemple de conséquences heureuses des rencontres mondiales des logiciels libres. Cet ouvrage est issu de fait partie des retombées des rencontres mondiales de l'année dernière à Mont-de-Marsan. Et on ne peut que souhaiter que le même genre d'initiative ait lieu suite à ces rencontres cette année à Nantes.
Merci beaucoup. Donc, Thierry Richter, je rappelle que tu intervenais pour la FUL au nom du groupe racketticiel, on peut dire ça ?
Il y a le groupe là qui a été initié, mais qui est ouvert à tout le monde et qui permet de diffuser de l'information, d'agir, d'informer, entre autres, et avec là toutes les bonnes volontés des autres associations et de ceux qui seraient intéressés par faire respecter la loi sur leurs achats.
Donc racketticiel.info, c'est l'URL.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et puis peut-être rappeler aussi les contacts.
Voilà, donc il y a aussi Benoît Cibot, merci, qui intervenait pour l'April dans le groupe de travail non aux ventes liées. Donc l'April, april.org, hein, comme ça se prononce. Alors que soit l'un ou l'autre, je pense qu'il y a des actions concertées.
En tout cas,
merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Pour cette table ronde.
Merci.
Et puis,
merci à vous.
J'espère qu'on prendra l'année prochaine de très bonnes
nouvelles. Des nouvelles de la vente liée.
Par rapport à ce sujet-là. Merci beaucoup.